France Culture.
La science CQFD, Natacha Triou.
Pour comprendre l'univers et son évolution, notre modèle cosmologique, le plus complet à ce jour, est celui du Big Bang. Quelles sont ses similitudes et ses différences avec les récits cosmogoniques du passé ? Les sciences modernes occidentales sont empreintes des représentations dans lesquelles elles se sont développées. Le Big Bang, par exemple. Il présente des résonances avec la genèse judéo-chrétienne. Un univers créé ex nihilo, une trajectoire vers une fin apocalyptique et la création de la lumière, évoquant le Fiat Lux. Si moderne et si scientifique soit-il, ce récit cosmogonique moderne fait écho aux tentatives passées issues de différents continents. De la Chine à la Mésopotamie, comment ce problème de la naissance du cosmos a-t-il été pensé dans d'autres traditions culturelles? Cosmogonie, l'origine des espaces. Jean-Marc Bonnet-Bideau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicien au CEA et vous venez tout juste de publier « Les rêves de l'origine, récits extraordinaires de la création du monde » chez Tana Éditions. Et nous sommes en ligne avec Yael Nazé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicienne, maître de recherche au fond de la recherche scientifique et vous travaillez actuellement à l'Institut d'astrophysique et de géophysique de l'Université de Liège et vous êtes l'autrice notamment de l'Astronomie du passé, paru en 2018 aux éditions Bellin. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation ici en direct dans nos studios à France Culture et merci à vous qui nous écoutez en direct ou à toute heure. N'hésitez pas à vous abonner sur notre fil podcast de l'appli Radio France et n'hésitez pas non plus à nous suivre sur Blue Sky. Alors quelle est l'influence de la culture sur le regard des chercheurs et comment cela a-t-il influencé l'astronomie des anciens? Comment a-t-on appréhendé le ciel et le cosmos de manière scientifique à travers les âges? Nous sommes ensemble une heure pour répondre à ces questions. Mais on commence par écouter la voix de celui qui posa la première brique du modèle du Big Bang, Georges Lemaître. C'est notre archive du jour.
Je pense que le point de vue est plutôt Descartes de répondre à votre question, en écartant justement ce que beaucoup de gens imaginent, c'est que je défends l'atome primitif, je ne sais pas moi avec quelle idée, quelle arrière-pensée religieuse. Naturellement, personne ne sait exactement quelle est sa psychologie et ce qu'il fait réellement. Mais non seulement consciemment, je n'ai pas du tout cette idée, mais même, je pense que l'impact de ces théories dans le problème philosophique, philosophico-religieuse, est essentiellement différent. C'est justement que, si ma théorie est correcte, elle fait en quelque sorte disparaître le problème philosophique de la création.
Voilà la voix de Georges Lemaître à la radio-télévision belge en 1964. On l'entendait évoquer cette hypothèse de l'atome primitif. Jean-Marc Bonnet-Bideau, cet atome primitif, c'est l'atome primitif du Big Bang.
Oui, d'une certaine façon, c'est ça. Ce qui est intéressant, on peut tout de suite distinguer, vous avez employé dans votre introduction deux mots différents, cosmogonie et cosmologie. Effectivement, il faut bien le constater, cosmogonie c'est du grec, donc cosmos c'est l'univers, gonie c'est la naissance, c'est-à-dire ça, c'est comme géniteur, c'est la même racine, donc on parle, en cosmogonie on parle de la naissance de l'univers. Cosmologie c'est le même univers, mais logique c'est logos, c'est le verbe, c'est la façon de penser, donc on pense l'évolution de l'univers. Et donc on pourrait dire que la cosmogonie c'est le début de la cosmologie. Et dans le cadre du Big Bang, effectivement, on a tout un discours, donc c'est donc une cosmologie, mais elle commence par un début, dont on ne sait pas encore ce qu'il est, et ça serait ça la cosmogonie du Big Bang. Et quand Georges Lemaître faisait référence à l'œuf primitif, c'est que lui, il a mis une idée, c'est qu'effectivement, au départ, il y avait tout un univers condensé dans quelque chose effectivement d'extrêmement dense, et qui a donné lieu après à toute la création.
Yael Nazé, votre réaction, vous aussi à l'écoute de cet archive, où on l'entendait parler de cette arrière-pensée religieuse, parce qu'il faut aussi dire que Georges Lemaître est aussi appelé l'abbé Lemaître.
Oui, en fait, il était prêtre, hein, et justement, en fait, c'est ce qui est assez amusant, c'est que lui, et on l'entend bien dans l'extrait, il séparait bien, il appelait ça les deux chemins, la religion et la science, et pour lui, c'était deux choses bien séparées, et il les séparait très fort. Mais alors, ce qui est amusant, c'est que, on va dire, tout le reste du monde ne le croyait pas. Et donc, par exemple, au niveau scientifique, on sait que des gens comme Eddington ont trouvé cette idée très suspecte, justement parce qu'elle venait de l'abbé Lemaître. maître, parce qu'il n'aimait pas le maître, hein, et c'était quelqu'un qu'il appréciait beaucoup, mais justement par sa formation de prêtre. Des gens comme Fred Hoyle aussi, hein, c'est d'ailleurs pour ça un peu quelque part qu'il va s'en moquer, hein, en lui trouvant le nom de Big Bang. Et quelque part de l'autre côté de la barrière, on a en 51 le pape Pie XII qui lui va quelque part faire allusion à cette théorie du Big Bang. Et sachant que l'année d'après il y a un gros colloque des astronomes qui va se tenir à Rome, le maître va aller voir Pie XII et lui faire comprendre très clairement qu'il ne doit plus associer les deux. Et bon, il a suffisamment bien engueulé le pape pour que le pape n'en parle plus, en fait. Donc voilà, je crois que le maître a été finalement assez mal compris quelque part, et ça l'a fortement desservi finalement. C'est assez amusant parce qu'on pense le contraire, mais en fait non, ça l'a plutôt embêté qu'autre chose.
Jean-Marc Bonnevideau.
Ceci dit, le dialogue qu'on continue, parce que en fait, bien que Pie XII ait peut-être fait machine arrière, là on a encore une citation, et cette fois-ci c'est le pape François, donc c'est en 2014, où le pape disait clairement: le Big Bang auquel on attribue aujourd'hui l'origine du monde ne contredit pas l'intervention créatrice de Dieu, mais il l'exige. Donc en fait, le débat entre scientifique et religieux n'est pas terminé.
Il n'est pas terminé. On pouvait même parler d'incompréhension autour de l'abbé Lemaître, et le Big Bang aussi, hein, a connu ses incompréhensions, puisque l'expression elle-même est empruntée à une insulte, une moquerie, Jean-Marc Bonnevideau.
Ah ben non. Alors ça, je suis formel, parce que je vais démentir ça encore une fois.
Ah, c'est une légende.
J'ai eu le plaisir d'interviewer Fred Hoyle moi-même, oui. Donc j'ai discuté de cet aspect-là, et on le voit dans ce qu'il écrit, ça n'a jamais été ni une moquerie, ni une façon de dévaloriser. C'est simplement une image qu'il a trouvée, qui est très bonne d'ailleurs, puisqu'on l'a adoptée complètement. Et donc, il y a une contradiction. On veut pratiquement que cet opposant au Big Bang ait été effectivement une façon de le détruire comme ça, par une moquerie. Ça n'est pas du tout vrai. Et de fait, il concevait qu'il y avait une bagarre de deux façons de décrire l'univers. L'univers du Big Bang, qui est un univers linéaire, qui va d'un temps T zéro à l'infini, et l'univers, effectivement, de l'état stationnaire qu'il défendait, qui peut être encore une idée qu'on pourrait effectivement ressuscité, c'est que l'univers se renouvelle tout le temps par une petite création de matière. Le débat est pas tout à fait clos, à mon avis, mais bon, c'est vrai que cet élément historique est très important.
En effet, Fred Hoyle, c'est au micro de la BBC en 49 qu'il utilise cette expression qui fait mouche. Yael Nazé, comme je disais dans mon introduction, ces incohérences entre Big Bang qui est empreint de ce récit de la genèse, notre cosmogonie européenne.
Oui, on a cette idée de création chez nous, mais bon, je crois qu'il faut pas oublier qu'elle existe aussi un peu partout. Je crois que justement dans le livre de Jean-Marc, on le voit très bien, hein, finalement cette idée de création existe très souvent. On a souvent un instant comme ça où il se passe quelque chose, il y avait rien et puis il y a quelque chose. Donc peut-être se limiter à nous, c'est peut-être un petit peu restrictif, je dirais.
Ça, je suis certaine que Jean-Marc Bonnevideau est d'accord avec...
Bien sûr, parce que justement, ça a été ma démarche, effectivement, de mettre en... Puisque moi, je suis dans une culture qui est la mienne, j'ai réalisé que j'étais formé dans cette culture-là, et j'ai tout d'un coup, au gré de mes pérégrinations, à la fois de voyage et puis de questionnement scientifique, j'ai découvert que le reste du monde avait aussi pensé tout ce que nous pensons et ce que nous avons pensé dans le passé, et l'avait pensé de façon très différente. Et là où c'est intéressant, c'est que justement, dans la notion de la création dans d'autres civilisations, d'abord, l'homme n'est pas au sommet de la création, jamais, dans aucune autre civilisation. C'est le propre de notre civilisation. Et d'autre part, ce qu'on appelle l'agent créateur n'est pas un dieu, qui de plus n'est pas anthropomorphique, mais c'est plutôt un esprit créateur, une force de la nature qui a créé l'univers. Et c'est très différent dans notre démarche, parce que nous, en tant qu'Européens, nous tenons absolument à ce qu'il y ait d'une certaine façon un dieu, même si c'est effectivement un dieu scientifique, et puis d'une autre façon, effectivement, une création finalement dans quelque chose qui nous ressemble.
En tout cas, ce qu'on voit dans votre livre, Jean-Marc Bonnevideau, c'est que quand on compare toutes ces différentes cosmogonies, ça révèle la portée universelle des concepts qui sous-tendent presque toutes les cosmogonies anciennes comme modernes.
Oui, alors moi j'ai trouvé que c'était absolument subjugant, parce que c'est un trésor de littérature aussi. Ces textes qui nous décrivent la création, le livre effectivement a pris le parti de partir de textes concrets, de textes dont on peut dater l'existence, qu'on peut lire encore aujourd'hui, des fois évidemment à travers de traductions bien sûr. Et donc ces textes-là sont une qualité littéraire et poétique que nous avons totalement perdue. Qui connaît l'histoire que raconte le Big Bang, à part que ce sont des équations? Donc on est exclu en tant qu'être humain de toutes ces histoires qu'on raconte sur la création. Et tout le bénéfice et la qualité de ces textes anciens, c'est de nous replonger dans un imaginaire. C'est pour ça que j'ai appelé mon livre « Les rêves de l'origine », une espèce de rêverie qui nous fait penser le monde. Et je pense qu'en termes philosophiques, c'est aussi la façon dont nous pensons. Nous sommes certes scientifiques, mais aussi effectivement philosophes.
Vous, Yael Nazet, de votre côté, alors c'est pas tant la cosmogonie que vous avez étudiée, regardée de près, mais plutôt comment on regardait dans le passé le ciel, comment les astronomes travaillaient. Mmh.
Oui, tout à fait. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est justement, hein, comme vous le disiez, on voit qu'on a cette activité astronomique partout dans le monde. On a des questions intéressantes qui sont posées partout dans le monde. Alors, elles sont parfois un petit peu différentes, forcément, dans leur parce que il y a des, enfin, je veux dire, chez nous, par exemple, on a des saisons très fortes, donc forcément, on va avoir beaucoup de liens avec les saisons, ce qui est beaucoup moins intéressant, je veux dire, quand on se trouve près de l'équateur. Mais donc, on a vraiment comme ça des interrogations que les humains se posent, et souvent ils vont essayer de trouver une solution en regardant les étoiles, en regardant les planètes, en regardant le ciel de manière générale, hein, parce qu'il y a aussi les aurores boréales et ce genre de choses. Et donc on va comme ça vraiment avoir tout un panel d'activités. Et ce qui est intéressant, c'est justement de voir que il y a eu des questions partout. Il n'y a pas un endroit où on n'a pas fait d'astronomie finalement. On a toujours fait de l'astronomie partout. On a répondu de manière différentes, certes, mais les interrogations profondes sont quelque part les mêmes.
Et c'est ce qu'on va voir tout au long de cette émission. Vous citez Jean-Marc Bonnet-Bidot dans votre livre, vous citez Alexandre Grothendieck, le célèbre mathématicien français, vous lui empruntez justement cette notion que notre culture serait atteinte de cécité intellectuelle. Et vous, même à titre personnel, vous travaillez sur la science chinoise ancienne et vous dites avoir été frappé par l'ignorance, voire l'indifférence à l'égard de cette discipline parmi les contemporains occidentaux.
Bien sûr, bien sûr. Parce que enfin, moi j'ai appris à l'école que la science, elle c'était terminé avec les Grecs, et après elle reprenait avec Galilée. C'est tout. Il n'y avait rien entre les deux, il n'y avait rien. Sans aller chercher, effectivement. Et donc, après, quand j'ai découvert, d'abord à travers la science chinoise, quand je dis science, c'est pas seulement l'astronomie, c'est la science de la nature, c'est la boussole, c'est la poudre, c'est l'imprimerie, c'est toutes ces découvertes dont nous avons hérité, et dont j'étais absolument pas conscient, puisqu'on me racontait une toute autre histoire. Donc cette cécité intellectuelle, c'est vrai que je l'ai empruntée à Grothendieck, parce que c'est vrai que je pense que c'est ça qui marque quand on découvre tout d'un coup qu'on est en fait claustrophobe dans sa propre culture.
Et Grothendieck, pour reprendre sa citation dans Récolte et sémail, nous sommes dans l'incapacité de voir et de nous mouvoir en dehors de l'univers fixé par la culture environnante. Yael Nazet, comment regardez-vous aussi cette sorte d'écran culturel scientifique sur le passé?
Mais justement, moi, je trouve que c'est une démarche intéressante. Alors, c'est vrai que, bon, quand j'ai, par exemple, proposé un cours sur, justement, l'évolution des idées à travers le monde et à travers le temps en astronomie, j'ai des collègues qui m'ont dit, mais ça n'a aucun intérêt. Mais parce que c'est vrai qu'on a tendance à voir utile et qu'on se dit, ben voilà, ce qu'il faut, c'est qu'ils puissent faire des équations, hein, des programmes sur ordi, etc. Et bon, et voilà, c'est ça qu'il faut leur donner. Mais je crois que, justement, essayer de voir d'autres façons de penser, d'autres façons de faire et d'ouvrir ses horizons, ça permet justement de voir les problèmes sous différents angles et ça nous aide quelque part à faire de la meilleure science. Je crois vraiment qu'il faut rester large. Alors peut-être et c'est peut-être difficile de le faire, je ne sais pas, à différents moments de la scolarité. Hein. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire tout le temps, mais je crois qu'avoir des ouvertures, c'est important. Et je pense qu'on le fait de plus en plus, dans les musées aussi. Et donc, bon, voilà, c'est quelque chose qui est important. Enfin, pour moi, en tout cas, j'en suis persuadée. Mais voilà.
On va continuer de décentrer un peu notre regard. On va voir que le début de l'univers à partir du vide absolu, c'est la base de notre Big Bang. On va voir que cette idée du vide quantique est aussi présente dans d'autres récits cosmogoniques. Allons voir ces différentes cosmogonies issues des différentes civilisations. Restez avec nous.
Culture, la science CQFD, Natacha Trioux.
En direct sur France Culture avec Jean-Marc Bonnet-Bideau et Yaël Nazé, nous parlons des cosmogonies du passé. Nous venons de parler du modèle du Big Bang et de comment les récits cosmogoniques s'inscrivent dans les cultures qui les créent. Mais maintenant, nous faisons un tour directement vers la Chine et le vide du Dao. Ça, c'est quelque chose qui est donc dans votre livre, Jean-Marc Bonnet-Bideau, les rêves de l'origine. Vous parlez de... J'ai toujours peur d'écorcher le nom de cet ouvrage encyclopédique vieux de 2000 ans. C'est quelque chose que vous regardez pour essayer justement de comprendre quels sont les récits de la création de l'univers dans cette encyclopédie.
Oui, bien sûr, et d'autant plus. Alors, le traité philosophique, c'est un traité philosophique issu d'un courant de pensée philosophique qu'on appelle le taoïsme. Et donc, le rôle dans le taoïsme, c'est le Tao. C'est une espèce de concept un peu, effectivement, de création. Et donc, il s'appelle le Huainanzi. Et ça veut dire le traité du prince de Huainan. Et on a tout son pédigree à ce texte, c'est ça qui m'a très intéressé. Donc il est deux fois millénaire, parce qu'il a été écrit en moins 139 avant notre ère. Et l'histoire, en deux mots, est tout à fait intéressante, parce que il a été écrit par un lettré qui aurait dû devenir finalement empereur. Et il était le petit-fils du créateur de la dynastie des Han, qui est la dynastie classique. Et finalement, c'est son neveu qui est devenu empereur. Et pour effectivement démontrer qu'il avait la stature d'un homme politique, il a fait écrire par des centaines de lettrés un condensé de la philosophie taoïste de son temps. Et c'est dans ce texte-là qu'on trouve effectivement cette expression de la création telle que vue par les taoïstes, qui nous renvoie, mais presque par une image très très forte, à ce début qu'on imagine dans la cosmologie du Big Bang, c'est-à-dire le vide quantique. C'est-à-dire que pour les Chinois, le début de la création, c'est le vide. Ce qui est un peu conceptuellement effectivement très 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 perturbant, puisque le vide, le plein, on ne sait pas du tout ce que c'est. Et donc il l'exprime de façon extrêmement lumineuse dans le texte dès le début, dès les premiers passages.
En effet, un des trois premiers chapitres, on y trouve les textes les plus détaillés de la création du monde. Et ce texte nous a été transmis fidèlement depuis sa création, donc en 139 avant notre ère. Il est publié aux éditions de la Pléiade aujourd'hui. Il est aussi dans votre ouvrage. Je vous propose une lecture. Il y eut un commencement. Il y eut un commencement au commencement. Il y eut un commencement au commencement du commencement. Il y eut l'être, il y eut le non-être. Il y eut ce qui précéda le non-être. Il y eut ce qui précéda ce qui n'était pas encore le non-être. Le ciel et la terre n'étaient pas encore formés. Tout était vaste et immense, caverneux et informe. Ainsi fut le grand commencement. Le Dao commença par engendrer les vastités vides. Celles-ci engendrèrent l'espace-temps, lequel engendra les souffles. Ceux-ci eurent des contours et des limites. Ce qui était léger et limpide se dissipa et se dispersa pour constituer le ciel. Ce qui était lourd et boueux s'agglomera et se coagula pour constituer la terre. Voilà, comme on le disait tout à l'heure, derrière l'origine des choses, il n'y a pas d'agent créateur, simplement le vide à partir duquel est engendré en premier l'espace-temps. C'est d'une étonnante modernité, Jean-Marc Bonnet-Bideau.
C'est ça qui m'a étonné énormément, parce que, bien sûr, ce concept, d'abord, dans les caractères chinois qui écrivent ce texte, il y a aussi un renvoi de forme qui est absolument somptueuse à voir. Mais l'espace-temps, il faut bien réaliser que nous ne le connaissons en Europe qu'à partir d'Albert Einstein et sa théorie de la relativité générale. Auparavant, l'Europe avait pensé l'espace et le temps séparés. D'ailleurs, effectivement, dans l'espace cosmique, il n'y avait pas de temps, tout était immuable et éternel, c'était créé par Dieu. Et en Chine, c'est tout à fait l'inverse. Ils ont totalement la notion des choses périssables, et forcément, ce qui se passe dans l'espace est articulé avec le temps. Et ça a l'air de rien, mais c'est une intuition géniale du point de vue scientifique.
En effet, il faut attendre la théorie de la relativité en 1915 où la première fois on conçoit en Europe que le temps et l'espace interagissent et que c'est bien leur réunion qui définit l'univers. Yaël Nazé, votre regard vous aussi sur cette conception de l'espace et du temps chez la Chine, dans la Chine ancienne?
Justement, hein, on l'a dit, c'est étonnant de modernité, mais c'est parce que c'est étonnant de modernité pour nous, pour eux, quelque part, ça paraît tout à fait normal. Et c'est vrai que quand on regarde dans d'autres civilisations, on ne ferme pas la porte comme ça, clairement, entre l'espace et le temps, et on a des notions complètement différentes. Et du coup, bah, ça, enfin, je veux dire, ça peut donner des choses amusantes, hein, donner un rendez-vous à quelqu'un en plein milieu du désert, parfois, c'est en disant à telle heure, bah, oui, mais enfin, ça n'a pas de sens quelque part parce qu'il y a tout le trajet. Enfin, le trajet n'est pas séparé du temps mis pour le faire. Et donc, c'est amusant finalement de se dire qu'il y a justement des autres conceptions. On est fort. Enfin, comme on le disait tout à l'heure, hein, on a une impression quand on nous parle des conceptions que bah, pouf, tout d'un coup, ça arrive comme ça Elles n'ont jamais existé ailleurs, alors que c'est pas du tout vrai. D'où l'idée d'ensemencement dont je parlais, c'est-à-dire que justement voir un peu ce qui se passe ailleurs, voir un peu ce qui s'est passé à d'autres moments, peut justement générer des idées qui vont résonner ou pas avec ce qu'on fait, mais qui peuvent justement être extrêmement intéressantes.
Parce qu'en effet, depuis des dizaines de siècles, l'univers en Chine, c'est l'espace-temps, Jean-Marc Bonnet-Bidot, mais chez les textes grecs anciens, on a la conception d'un espace cosmique figé, éternel, immuable.
Oui, alors c'est déjà une déclinaison plutôt dans l'espace chrétien d'ailleurs, parce que peut-être dans les Grecs il y a une multitude de textes, donc on trouve à peu près tout et son contraire. Mais là, effectivement, l'idée évidemment d'avoir séparé le ciel et la terre et d'avoir fait effectivement, d'abord en Grèce, ce qui est symbolique, c'est que le ciel est le domaine des dieux et les dieux sont anthropomorphiques, ce sont des dieux comme les hommes finalement. Et donc ça, c'est déjà une conception très particulière. Et ça va être repris par la chrétienté, puisque nous après on prendra un Dieu unique, et le ciel est ancré immuable et éternel, il n'y avait aucune raison de regarder. On n'a pas fait d'astronomie à cause de cette simple constatation qui était dans la Bible d'une certaine façon, c'est que Dieu ayant créé l'univers avec le ciel imperturbable et éternel, il n'y avait rien à y regarder. On a perdu 1500 ans.
Sur les observations, Yael Nazé, le travail scientifique du peuple chinois, on voit un savoir astronomique très pointu dans la Chine ancienne.
Oui, et alors il suffit de regarder les cartes, hein, c'est absolument incroyable. Ils nous font des cartes précises bien avant que nous on ait même commencé à imaginer des projections. Donc c'est assez amusant de voir justement, ils vont vraiment bien réfléchir à tout ce qu'ils vont faire, quoi. Ils vont organiser des programmes d'observation, ils vont faire des cartes précises, ils vont faire des descriptions précises. Et donc, on se retrouve avec une somme, une énorme bibliothèque. Alors, ils sont peut-être moins intéressés par les planètes, mais pour ceux qui étudient les supernovas, les novas, les comètes et ce genre de choses, c'est une mine extraordinaire. Si on n'avait pas ça, il y a beaucoup de tests qu'on ne pourrait même pas faire en science actuelle parce que justement, je ne sais pas moi, des supernovas pour avoir l'évolution, mais on a le début, on a ce qu'on voit aujourd'hui. On doit essayer de trouver un modèle qui colle. Et si on rate, évidemment, ben voilà, c'est évidemment. C'était plus facile si on n'avait pas les trucs anciens ou qui nous contraignent évidemment sur ces modèles. Donc, on arrive comme ça à obtenir des informations qu'on n'a pas du tout dans le côté Occident et même Moyen-Orient à l'époque. Donc, non, la Chine à ce niveau-là, c'est une base de données extraordinaire pour plein de phénomènes astronomiques, hein. Ça, c'est assez évident. Ce qui est amusant, c'est que quelque part, l'astronomie, c'était quelque part un ministère, quoi. Donc, on avait des fonctionnaires depuis plus de 2000 ans qui travaillaient en astronomie, alors que bon, ici, avoir des observatoires d'État, c'est venu vraiment très, très tard, quoi.
Oui, on a eu en effet une bureaucratie céleste, hein. Et d'ailleurs, on a des descriptions très, très, très précises du passage de la comète de Halley en 837.
En 837.
En 837, alors qu'en Europe, ça ne tient en à peu près deux lignes. Voilà, mais vous souhaitiez commenter, Jean-Marc Bonnet.
Oui, parce que de toute façon, amusant, ce que souligne Yaël, c'est qu'effectivement, c'est exactement le début de mon questionnement. Parce que j'ai travaillé très longtemps, et encore, effectivement, sur les supernovas, qui sont des explosions d'étoiles. Explosions d'étoiles qui ont été vues dans l'histoire humaine. Il y en a eu des dizaines. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler sur une explosion particulière, on m'a dit, mais il y a un texte qui décrit ce qui s'est passé. J'ai dit, ok, et où est-ce que c'est? Eh ben, c'est en Chine. Et ce texte décrivait ce qui était passé en l'an 1054. Il décrivait tellement précisément que j'ai travaillé sur ce texte-là, et à ce moment-là, j'ai découvert toute cette espèce d'espace scientifique qui m'avait été caché, puisque j'en avais aucune connaissance, et qui a ouvert tout mon questionnement sur la Chine et puis les autres, le reste du monde.
Yael Nazet, pour compléter, on parle là des grandes archives astronomiques chinoises, mais il y a aussi ces inventions en matière de télescopes également.
Alors, pas tellement en matière de télescope, mais par exemple, pour observer, on met les télescopes sur ce qu'on appelle une monture, et c'est oui. cette monture-là qu'on utilise, qu'on appelle équatoriale, hein, parce qu'en fait, elle reproduit le mouvement du ciel, hein, donc elle a un axe qui est simplement l'axe de rotation de la Terre, par exemple. Ben ça, les Chinois avaient déjà utilisé ce genre de choses bien avant que nous, on ne s'y mette, pour justement, hein, puisqu'ils essayaient de repérer les choses précisément, mais ils avaient besoin d'outils d'observation précis, et donc, effectivement, c'était la façon la plus facile de le faire. Ils avaient des entraînements aussi, des horloges mécaniques, ce genre de choses extrêmement précises. Donc il y a eu comme ça tout un ensemble d'évolutions qui ont été faites bien avant, parce que tout simplement ils en avaient besoin pour faire de l'astronomie extrêmement précise. Et bon, bah il faut bien reconnaître que chez nous, bah pendant tout le Moyen-Âge, quoi, on n'a pas évolué très très fort. Et même pendant les Grecs, on a quand même des Grecs qui refusent, comme Platon un peu, de observer quoi que ce soit, quoi, et qui refusent toute expérience, qui veulent rien voir, quoi. À côté, ben justement, eux, c'est un peu le pari inverse, c'est de regarder, d'essayer, de voir un peu, et puis ben voilà, il aurait peut-être fallu que les deux mondes se rencontrent plus tôt, ça aurait certainement donné des choses extrêmement intéressantes.
En effet, en tout cas, la Chine a fait des découvertes majeures bien avant l'Europe, hein, celle des taches solaires, des explosions d'étoiles, des trajectoires de comètes, les cartes d'étoiles donc étonnantes, on le disait. Alors comment le cosmos a-t-il été pensé par les Grecs? Restez avec nous, on y arrive. Imagination de Cosmic Monique en direct sur France Culture, car nous parlons de comment par le passé nous avons imaginé les naissances des cosmos à travers les différentes civilisations. On en parle avec nos deux invités du jour, Jean-Marc Bonnet-Bideau, astrophysicien au CEA, et Yael Nazet, astrophysicienne à l'Institut d'astrophysique et de géophysique de l'Université de Liège, maître de recherche au FNRS. Alors comment ce problème de la création du monde est-il pensé dans d'autres cultures? On vient d'en parler du côté de la Chine. On vient de voir que si on compare différentes cosmogonies, on vient déjà de voir la portée universelle de concepts, le vide quantique de notre Big Bang ou du Dao chinois. Parlons à présent de l'Égypte. L'Égypte, c'est le mystère de la dualité, Jean-Marc Bonnet-Bidot. Alors la civilisation de l'Égypte ancienne, c'est assez impressionnant quand même de longévité. Hein. Plus de 40 siècles, on ne peut pas parler d'une cosmogonie.
Non, c'est ça. Donc c'était le problème du livre. On a dû faire des choix, bien évidemment, des choix parfois de régions qu'on a omis, et dans une même région, notamment l'Égypte ancienne, sur 4000 ans d'histoire, il y a eu beaucoup de cosmologie. On en a choisi une parce que elle avait l'avantage de présenter un texte écrit il y a très longtemps, en 1350 avant notre ère, et gravé sur un tombeau. Donc il était indiscutable comme origine. Et donc il était d'autant plus structuré de façon très complète. Alors que beaucoup de textes égyptiens qu'on voit, on a l'impression qu'on a beaucoup de textes disponibles. En fait, ce sont souvent des mêmes prières qui sont répétées comme des mantras un petit peu. Et donc ce texte-là, il est somptueux par sa structure, parce qu'il décrit toute une création de façon assez linéaire. Et surtout, en fait, il décrit le tribut que l'on doit au soleil, puisqu'il s'appelle Lina Aton. Aton, effectivement, c'est le dieu soleil, c'est donc très exactement le disque solaire. Parce que le dieu du soleil, c'est Ra, mais on avait un nom pour le disque du soleil. C'est celui qui, effectivement, inonde la terre de sa chaleur et de sa lumière. Et tout ce texte est une gloire à ce fameux Aton. Et il a été, effectivement, rédigé par un pharaon qui s'est lui-même appelé après Akhenaton, c'est-à-dire lié à Aton, finalement.
Utile à Aton.
Utile,
oui.
À Aton, exactement. Et donc, c'est intéressant parce que c'est une petite parenthèse dans les cosmologies et cosmogonies égyptiennes, parce que, de cette façon, il a resserré le nombre d'esprits créateurs qu'il y avait en Égypte pour le concentrer sur un seul. Et d'une certaine façon, c'est un peu les racines d'un monothéiste. Et le fait, alors celui-là, ce pharaon est très très célèbre, puisque c'est l'époux de Néfertiti et le père de Toutankhamon, que les gens connaissent mieux finalement peut-être. Et donc cette parenthèse, en fait, ça a été une version monothéiste de la cosmogonie égyptienne, mais qui a été détruite à sa mort et remplacée par les dieux plus classiques de l'Égypte. Donc c'est intéressant parce que on démontre comme ça qu'il y a eu énormément de tentatives d'explication, c'était pas toujours la même au cours des siècles.
En tout cas, par rapport à ce disque solaire, ce grand hymne à Aton, ce principe créateur dont toute chose serait issue, le soleil, enfin finalement les Égyptiens ont une bonne intuition, puisque sans lumière du soleil, il n'y aurait pas de vie sur Terre.
Exactement, et c'est ça qui est intéressant dans ces textes-là. C'est-à-dire ils ne sont pas scientifiques au sens où nous définissons la science aujourd'hui, mais ils sont scientifiques par leurs intuitions et leurs observations. Pour dire qu'effectivement le disque solaire est responsable de beaucoup de choses qui se passent sur Terre, il faut d'ailleurs l'avoir constaté. Constater par exemple que quand il y a des nuages, quand on n'a pas le soleil, il se passe des choses. Donc ce sont des constatations de type scientifique. Moi, je me bagarre beaucoup pour faire comprendre que la science n'est pas née avec la méthode cartésienne. Elle est née bien avant. Et elle est née, effectivement, de l'expérimentation, de la constatation des faits et des conséquences qu'on peut en tirer. C'est ça, l'intelligence humaine à travers tous les siècles. Et à ce titre-là, on n'a pas beaucoup progressé. On n'est pas plus intelligent que ceux qui ont écrit il y a 2000 ans. Ça aussi, ces textes nous l'apprennent.
Et Al-Nazé, je vous voyais hocher de la tête depuis mon écran sur justement ces cosmogonies de l'Égypte antique.
Oui, en fait, c'était justement, effectivement, hein, dire que la science débarque comme ça, tout d'un coup, pouf, ça y est, au milieu du 17e, c'est un petit peu folklorique, en fait, hein, quelque part. C'est, on voit vraiment que c'est toute une démarche qui va prendre du temps, qui met du temps à s'installer, finalement, quelque part, ça commence par se poser une simple question. C'est ça la première démarche scientifique, c'est se poser une question. Et on voit très bien que on se les pose depuis extrêmement longtemps. Vous prenez des hommes préhistoriques avec des monuments mégalithiques, ben ils ont montré qu'ils se posaient des questions, qu'ils avaient observé précisément et qu'ils essayaient même de trouver des réponses un peu plus complexes, quoi, à des phénomènes qu'ils pouvaient observer. Donc non, effectivement, la science n'est pas du tout née juste il y a quelques siècles. C'est vraiment tout un processus et qui commence très tôt, et avec des choses très sophistiquées à certains moments, à certains endroits, des choses moins sophistiquées à certains moments, à certains endroits, mais quelque part, l'important n'est pas là, l'important c'est le fait de se poser des questions, cette curiosité qui est là depuis toujours et qu'on essaie de confronter justement à la réalité, et on a certains qui vont confronter mieux à la réalité que d'autres.
Et oui, Yael Nazé voulait dire que finalement, les questions sont les mêmes, ce sont les outils qui divergent.
les outils, le mindset, comme on dit quelquefois en anglais, hein, donc vraiment ce qu'on peut penser à un moment, et donc ça va, voilà, ça peut être plus créatif à certains moments qu'à d'autres, mais il faut pas oublier qu'effectivement, l'humain n'a pas tellement changé sur, moi j'irais même plus loin que quelques milliers d'années, hein, je retournerais même plusieurs dizaines, centaines de millions, de milliers d'années, hein, clairement, on n'est pas différent. Fondamentalement des Égyptiens, des anciens Grecs ou des hommes préhistoriques du Néolithique ou du Paléolithique.
Chaque ville imaginait à sa façon la création du monde. Pour la plupart, à l'origine des temps, il n'y avait qu'une eau obscure et froide, le chaos. Là s'enfanta le dieu créateur de toutes choses. De là surgit la première terre, légende naturelle pour des hommes qui tous les ans voyaient leurs champs renaître après l'inondation. L'art illustre ses cosmogonies. Le ciel est une déesse, Nout. Son corps se courbe en arc au-dessus de la terre comme la voûte céleste. Un dieu la soutient de ses bras, Chou, dieu de l'air. Sous elle, un corps étendu, Geb, le dieu terre. Les bras de Nout reposent sur l'horizon de l'est. Son corps est le chemin qu'emprunte le soleil de son lever à son coucher. D'après certaines traditions, la déesse Nout avalait chaque soir le soleil et chaque matin elle le mettait au monde. En son corps également circulent les étoiles. Jadis le ciel et la terre, Nout et Geb, étaient réunis, mais le dieu de l'air vint les séparer de force. Les pieds de Nout repose sur l'horizon de l'ouest. Ainsi, l'art des imagiers nous explique pourquoi il y a un ciel, une terre, une atmosphère, des astres, et il nous montre leur place dans l'univers.
Voilà, une représentation de cosmogonie de l'Égypte antique dans un extrait de l'émission Terre des Arts sur la RTF. Jean-Marc Bonnet-Bidot, votre écoute sur cet exemple de Nout, cette déesse du ciel.
Oui, c'est très. Alors, d'une part, là, on a des très très belles gravures, puisqu'il y a un certain nombre de papyrus qui représentent cette déesse Nout avec son corps cambré, et cette idée, effectivement, de l'angoisse naturelle de l'homme, de savoir que quand le soleil se couche, va-t-il réapparaître ? Bien, les Égyptiens se sont effectivement concentrés sur cette énigme-là, en opposant donc le jour et la nuit dans cette espèce de dualité, et en fait, ils ont trouvé cette réponse qui est très très poétique, d'autant plus qu'après, ça leur a permis de déterminer qu'ils ont fait 12 divisions dans le jour et dans la nuit, qui est nos 24 heures actuelles. Donc c'est ça dont on a hérité. Donc c'est aussi amusant de voir cet héritage qu'on a des Grecs. Et là, on voit effectivement une tentative de répondre à une question essentielle, c'est-à-dire le jour et la nuit, comment ça fonctionne. Donc ces dessins qu'on voit sur les papyrus, puisqu'on a pu les garder, c'est aussi effectivement absolument merveilleux à contempler.
Le jour et la nuit, comment ça fonctionne ? Ça, Yael Nazé, il a fallu attendre quand même la Grèce antique pour le comprendre. Je pense à des savants, par exemple, là on entendait Nout qui fait naître le soleil à chaque matin. Je pense à Anaximandre qui propose le modèle mécanique de l'univers. Les astres ne renaissent pas chaque jour à leur lever.
Oui, c'est on a un cas un petit peu différent, on va dire, où on a justement pas un besoin d'avoir un soleil qui se bat dans l'inframonde et qui va enfin qui mène un combat toute la nuit pour finalement probablement émerger. Et donc là, on a quelque chose factuel quelque part, hein. On a une espèce de terre qui flotte au milieu de rien, et puis voilà, on a autour des espèces d'anneaux avec l'un qui représente le feu du soleil et l'autre le feu de la lune, et bon, ils sont là, enfin je veux dire, ils vont pas disparaître, quoi, ils sont là. Et donc du coup ils se posent plus la question de savoir s'ils vont disparaître ou réapparaître, mais ce qui est quelque part aussi une interrogation assez intéressante, parce que on a toujours ces questions de début. Mais quelque part, corrélée à la question du début, il y a aussi la question de la fin. Et est-ce que justement cet univers aura une fin? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Et ce qui est amusant, c'est que justement, quelque part, on a eu, surtout dans les années 80, on pensait beaucoup avec cette idée d'univers cyclique lié au Big Bang. Hein, et quelque part, quand on reprend les cosmogonies de Maya, chez eux, le début va avec la fin. Et notre univers, c'est peut-être une pause entre deux choses. C'est pas nécessairement le meilleur, c'est pas nécessairement le moins bon. Donc, il y a le début, il y a la fin. Et justement, essayer de la voir parfois, je veux dire, comme ça, ok, factuellement, c'est là et ça ne va pas bouger, quoi. Mais parfois, on va se dire, oui, mais il y a eu un début, mais il y a aussi une fin.
Jean-Marc Bonnet-Bido.
Oui, en fait, c'est très intéressant d'ailleurs justement parce que notre description cosmologique actuelle est tellement linéaire et donc va d'un début à une fin qu'on peut se poser la question. Alors, il y a des civilisations, notamment en Inde, où c'est totalement exclu cette description de l'univers. C'est l'univers se renouvelle sans cesse. C'est-à-dire, c'est un univers cyclique par la base. D'ailleurs, c'est ce qui a donné l'idée de la réincarnation aussi. Enfin, tout est ce concept de l'hindouisme. Effectivement, il exclut totalement un univers qui irait d'un début à une fin. Donc, on a des civilisations qui ont développé ça et même chez les Mayas, je crois qu'il y a un contresens, il me semblerait, sur l'idée d'une fin du monde. On nous a parlé de la fin du monde en 2012 parce qu'on terminait un grand cycle maya. Il y a un cycle maya de 400 ans qui, une fois 13 fois 400 ans, ça fait quelques milliers d'années. Et on a imaginé que ce serait la fin du monde pour les Mayas. Non, ils n'ont jamais écrit comme ça. Et c'est plutôt une répétition d'un grand cycle. Alors après, on ne sait pas quand ça commence, on ne sait pas quand ça arrive. Mais cette question de début et de fin, c'est vrai que ça marque très fortement notre conception actuelle. Et moi, je me permets de poser la question, est-ce que cette façon qu'on a de décrire l'univers n'est pas en fait orientée par une culture d'origine, qu'est la culture européenne, par exemple?
Mais d'ailleurs, Yael Nazé, les réflexions des Grecs les amènent finalement à bâtir de véritables modèles mathématiques pour représenter l'univers, mais comment ces représentations de l'univers par les Grecs se distinguent-elles des Chinois, des Mayas ou des Mésopotamiens?
Alors, on retrouve aussi hein, des modèles mathématiques chez les Mésopotamiens ou les Chinois, mais ce qui fait un peu la particularité grecque, c'est d'avoir des modèles géométriques. Et donc, quelque part, c'est d'avoir une vision très, très géométrisante de l'affaire, et donc, du coup, d'essayer de trouver la meilleure solution. Ce qui va être beau géométriquement, et ce qui va être beau géométriquement, c'est principalement la sphère, et du coup, c'est là qu'on va, je vais dire, c'est là que les ennuis vont commencer, hein, pour beaucoup de choses en astronomie, parce qu'on va se contraindre très fort à essayer de tout mettre dans cette sphère, et ça va poser problème. Alors, c'est pas mal parce que ça évite la Terre plate, donc à ce niveau-là, c'est vrai que c'est bien, mais pour le reste, c'est vrai que ça va poser un certain nombre de problèmes parce qu'on va contraindre très fort toutes les possibilités, qu'il peut y avoir dans l'univers à cause de ces modèles géométriques. Et d'ailleurs, même les premiers modèles géométriques qui devaient principalement être beaux mathématiquement, on s'en fichait quelque part que ça ne ressemblait pas à ce qui était ce qu'on pouvait voir dans le ciel. C'est-à-dire, par exemple, on avait Mars qui était complètement à un autre endroit que ce qui était prévu, mais c'était pas trop grave parce que c'était beau. Donc voilà. Tandis que, bon, chez les Mésopotamiens ou les Chinois, c'est bon, à la limite, le modèle est peut-être moins beau, mais d'un autre côté, si on vous dit que Mars est dans cette direction-là, il y est vraiment, quoi.
Jean-Marc Bonnet-Bido.
Oui, ce qui est intéressant dans le cas des Grecs, justement, je me suis rendu compte quand j'ai essayé de trouver un texte qui racontait la création du monde, il n'y a pas de cosmogonie. Il y a une théogonie. On raconte l'histoire de la création des dieux, mais on ne raconte pas l'histoire de la création du monde. Et ça m'a frappé parce que c'est une singularité. Et je pense que c'est lié au fait qu'en Grèce, effectivement, par rapport à la Chine, qui était un État très centralisé, c'était des penseurs un peu isolés, des philosophes isolés. Donc il y a une multitude de constellations, d'hypothèses sur les choses. Et finalement, on en a gardé des fractions très, très infimes. D'ailleurs, on n'a aucun texte originaux des Grecs. Quand on nous parle des Grecs, ce sont que des choses rapportées par des historiens. Donc c'est déjà un problème si on voulait trouver un texte. Mais par exemple, le texte d'Hésiode, il a été forcément recomposé. Et donc, c'était frappant, parce que c'était un espace où, justement, ils préféraient raconter l'histoire de la création de leur dieu plutôt que celle du monde.
Voilà, c'est aux dieux que revient la responsabilité de la création. Mais la Grèce antique a quand même pensé le réel comme une association d'éléments. Les atomes, c'est la Grèce antique. Et cette conception atomiste a irriguer les réflexions des sciences occidentales, Jean-Marc Bonnet-Bido.
Oui, bien sûr, ça c'était très intéressant, c'est pour ça qu'on a fait figurer, bien qu'il n'y ait pas de cosmogonie, on a fait figurer ce texte de Leucippe, qui était un philosophe grec à peu près du 5e siècle avant notre ère, qui lui a décrit de façon assez précise l'assemblage des éléments. Alors il y a un vocabulaire particulier, il ne parle pas d'atome, on dit souvent atome, atoma, c'est atoma, c'est que ça ne peut pas être sécable en grec. Alors que lui, il parle de membrane, de choses plus indirectement, mais qui décrit décrit la façon dont on pourrait faire quelque chose de complexe à partir de quelque chose d'élémentaire. Et son texte est tout à fait d'actualité, puisque finalement, dans le Big Bang d'aujourd'hui, à un moment donné, on a des particules qui s'assemblent pour faire les molécules, etc. Donc ça, c'est une espèce de d'illumination, un petit peu comme ça, et donc qui nous a été conservée. On peut décrire comme ça l'univers que pensaient certains Grecs.
Voilà, il décrit en effet cet assemblage de matière comme un rassemblement de corpuscules au cœur d'un tourbillon. C'est assez proche de la cosmologie moderne.
Oui, exactement. Parce que, effectivement, dans la cosmologie moderne, on sait très bien que rien n'est fixe, tout bouge. Et pour former les galaxies, il faut des tourbillons de matière, de certaine façon. Et c'est ça qui, ça fait écho. Ce qui est intéressant dans le livre qu'on a écrit, c'est qu'en fait, on trouve des échos. Ça n'est pas des démonstrations qu'on a traitées du même sujet, puisque le sujet qu'on traite dans le Big Bang, il est traité avec des équations. Mais c'est les mêmes intuitions, c'est les mêmes pérégrinations mentales des hommes au gré des siècles. Et dans ce sens-là, effectivement, le mouvement, ça a été repris après par Laplace, pour former les systèmes solaires. C'était des tourbillons qui formaient les systèmes solaires. Et donc, c'est quelque chose d'éternel. On se pose la question, on voit des choses évoluer. Et comment fait-on le complexe à partir de l'élémentaire? Et ben voilà, c'est à la fois l'agrégation, mais le mouvement.
Voilà, et puis vous aussi citez le physicien français Pierre Simon de Laplace, hein, qui reprendra cette image presque identique pour la création de la formation des planètes au sein d'une nébuleuse solaire primordiale par tourbillon. On continue de tourbillonner avec nos cosmogonies. Restez à l'écoute.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture avec Yaël Nazé et Jean-Marc Bonnet-Bideau, nous parlons des cosmogonies. On a fait un petit tour dans le passé, retour à présent dans le présent, Yaël Nazé. Comment les mythes modernes influencent-ils la recherche? Alors peut-être pas dans le présent-présent, mais je pense au 19e siècle avec les canaux martiens qui est un bon exemple, je pense, de l'influence que cela peut avoir dans les esprits des astronomes.
Oui, parce que finalement, quelque part, tout a commencé par une belle idée. Justement, on parlait de Simon Laplace avec ses tourbillons. Ben, on se dit du coup, ben, on a les planètes qui naissent en même temps que les étoiles. Et donc, ben, forcément, quand on voit un peu, il y a plein d'étoiles. Donc, ben, il doit y avoir plein de planètes. Et donc, globalement, ben, on imagine bien qu'il doit y avoir, s'il y a des planètes, hein, c'est qu'il y a des habitants dessus. Et donc, on peuple comme ça tout le cosmos, mais aussi notre système solaire. Alors, évidemment... À l'époque, un Vénusien est tout aussi probable qu'un Martien. Et puis quelque part, on va avoir une erreur qui va se commettre quand on va commencer à observer Mars en 1877, où là, Mars est vraiment, c'est une période où on va pouvoir très très bien l'observer. Et là, bon, quelque part, on va avoir un problème. On va pas rentrer dans les détails historiques, mais on va se dire à un moment qu'il y a des canaux sur Mars. Et évidemment, bon, l'idée d'un canal, c'est pas du tout quelque chose de naturel, hein. C'est canal au sens artificiel. Et donc, si c'est artificiel, c'est qu'il y a des pâtisseurs. Et donc, forcément, on a des martiens comme ça qui vont débarquer. Alors, ce qui est amusant, c'est de voir que des gens comme Schiaparelli, qui ont fait les premières observations en 1877, vont au départ dessiner des trucs qui sont pas des canaux bien rectilignes. Mais plus ils observent, plus cette idée se met et plus les canaux deviennent rectilignes dans ses propres observations. Et finalement, il y aura très très peu d'astronomes qui vont s'opposer réellement à ça. Alors, il va y avoir des gens très très vocaux, hein, comme Flammarion ou Lowell, hein, qui vont évidemment, eux, faire beaucoup de bruit autour de cette idée de canaux martiens, mais ça va vraiment passer dans notre culture, au point où, quand la NASA va aller préparer des sondes pour aller observer Mars, ben, on travaille toujours avec les cartes où il y a des canaux martiens un peu partout, quoi. Et donc, bon, quelque part, quand on va voir les premières images, on va être très déçus parce que, ben, il n'y a pas de canaux, pas de bol. Mais voilà, cette idée d'habitants sur Mars, elle est restée, elle a vraiment imprégné la culture et elle continue de l'imprégner. Donc, c'est assez amusant que même les scientifiques de cette époque-là, de la fin du 19e, début du 20e, qui vivaient dans cette ambiance, il y en avait très peu qui vont remettre en cause vraiment ces observations et dire non mais les gars, attendez, on est en train de déconner complètement, quoi. Et donc on voit bien que on peut avoir comme ça à certains moments une idée qui va impressionner, qui va être adoptée plus ou moins fortement, avec plus ou moins des extrêmes, mais en tout cas on va tenir, quoi.
Mais ça me fait penser à cette autre citation, et ce sera notre conclusion, Jean-Marc Bonnet-Bineau. Cette citation de Heisenberg, fondateur de la physique quantique. Il faut se rappeler que ce que nous observons n'est pas la nature elle-même, mais la nature exposée à notre méthode de questionnement.
Oui, j'ai une énorme admiration pour les physiciens quantiques parce qu'ils ont remis en cause toutes ces conceptions de physique classique qu'on avait. Ils se sont posé des vraies questions et ils ont eu l'originalité de réaliser que notre vision, si scientifique qu'elle soit, n'est qu'une vision temporelle. Elle sera invalidée demain et donc c'est notre meilleure description à un moment donné et c'est tout. C'est pas la vérité, c'est pas une vérité.
Bien, en tout cas, merci à vous deux de nous avoir fait voyager, d'avoir aussi mis en lumière les limites du Big Bang. Pour prolonger l'écoute et le plaisir, rendez-vous en librairie ou en médiathèque pour vos deux ouvrages. Jean-Marc Bonnet-Bideau, Les rêves de l'origine, récit extraordinaire de la création du monde chez Tana Édition, et votre ouvrage Yael Nazé, L'astronomie du passé, paru en 2018 aux éditions Bellin. Merci à vous deux. Tout de suite, un tout autre sujet, quels sont les effets de la compensation carbone ? Réponse avec la chronique Avec Science.
Pourquoi la compensation carbone est-elle inefficace pour lutter contre la déforestation ? C'est un outil souvent valorisé pour contrer l'effet du changement climatique. L'idée est d'associer des projets de conservation des forêts, plutôt dans des pays dits du Sud, avec des financiers, plutôt dans des pays du Nord. Les projets sont nommés REDD+, un acronyme pour réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. Ils reposent sur du volontariat et sont le plus souvent pilotés par des ONG ou des organisations publiques. En face, des entreprises privées les financent grâce au système de compensation carbone. Elles achètent des crédits censés contrebalancer leurs propres émissions de gaz à effet de serre. En clair, en plantant des arbres et surtout en évitant d'en couper, on permet à davantage de CO2 d'être capté dans l'atmosphère. À l'heure actuelle, plus de 700 projets REDD+ existent à travers le monde et cette idée d'une évidente simplicité sur le papier est née dans les années 2000. Philippe Delacote est chercheur à INRAE et à la chaire économie du climat.
Dans le courant des années 2000, il y a eu plusieurs travaux et puis plusieurs propositions qui ont mis en avant cette idée de faciliter la conservation des forêts pour lutter contre le changement climatique et en même temps de rémunérer surtout les populations du Sud pour leur effort de conservation des forêts. Donc il y a eu notamment le rapport Stern en 2005 qui soulignait que la conservation des forêts, c'était un petit peu une option de lutter contre le changement climatique, entre guillemets, à bas coût. Alors, on est bien revenu de cette idée depuis, mais néanmoins, cette idée a perduré dans le temps. Et puis, à la suite du protocole de Kyoto, il y a eu ce qu'on a appelé les mécanismes de développement propre, dont l'idée était aussi de faciliter la transition climatique dans les pays du Sud, à travers des financements privés d'entreprises du Nord.
Lorsque les premiers projets REDD+ ont été lancés, il n'existait quasiment pas de littérature scientifique sur le sujet. Et dans les années 2000, la couverture satellite permettant de suivre la déforestation n'était pas encore assez développée pour mesurer les effets concrets de ces programmes. Ce qui signifie que l'évaluation scientifique de ces projets progresse en fait au même rythme que leur mise en œuvre. Maintenant, cette littérature scientifique existe, elle est foisonnante et assez critique. Une étude parue dans Science le 9 octobre dernier révèle que moins de 20% des projets REDD+ atteignent les bénéfices prévus en termes d'émissions de CO2. La question, c'est pourquoi ? Pourquoi ces projets n'atteignent-ils pas leur objectif ? Pourquoi le système de compensation carbone n'est pas efficace pour la conservation des forêts ? Une toute nouvelle étude parue dans Global Change Biology a voulu démystifier les récits un peu trop optimistes autour des crédits carbone forestiers en examinant leurs faiblesses. Résultat, la plus importante des limites, c'est le manque d'additionnalité. Ces projets ne réduisent pas davantage la déforestation que s'ils n'avaient pas existé, tout simplement parce qu'ils surestiment leurs effets.
Un bon exemple, c'est celui du scénario de référence. Quand vous mettez en place un projet de déforestation évité dans une zone, par exemple en Amazonie brésilienne, le scénario de référence, c'est comment aurait évolué la déforestation si le projet n'avait pas été mis en place. Et ce que la littérature académique montre, c'est que les certificateurs, donc ceux qui donnent les crédits carbone aux porteurs de projets, ont tendance à considérablement surévaluer le scénario de référence, donc à laisser à penser que si le projet n'était pas mis en place, la déforestation dans la zone aurait été très importante. Or, ce qui se passe, c'est que maintenant, il y a un certain nombre de travaux académiques, qu'on appelle souvent quasi-expérimentales, qui montrent justement que ces scénarios de référence ont tendance à surévaluer cette déforestation, et donc que l'allocation de crédit carbone au projet de déforestation évité est trop importante. L'additionnalité, c'est un petit peu le cœur vraiment de la problématique autour des crédits carbone. Néanmoins, il y a des problématiques périphériques qui jouent aussi sur cette additionnalité. Je vais donner deux exemples très rapides. Le premier, c'est ce qu'on appelle les risques de fuite. C'est-à-dire que si vous arrivez à réduire la déforestation dans la zone qui est traitée par votre projet, ça peut avoir comme effet d'augmenter la déforestation dans les zones voisines. Le deuxième, c'est la non-permanence. Quand du carbone est capturé par les arbres, quand il pousse, ce carbone, il n'est pas capturé pour l'éternité. Les arbres, ils ont une durée de vie qui est donnée. Et donc, une tonne de carbone séquestrée par un arbre, ce n'est pas équivalent à une tonne de carbone qui ne serait jamais émise dans l'atmosphère.
Et donc, une tonne de carbone séquestrée par un arbre n'est pas équivalent non plus à un crédit carbone. D'autant que celui-ci est extrêmement bon marché. 5 dollars la tonne seulement. Augmenter ce prix ne résoudrait pas le problème, mais d'autres solutions existent. Une autre étude parue dans Nature Sustainability en juillet, et dont ce chercheur est le premier auteur, propose un recours systématique aux méthodes dites quasi-expérimentales. En clair, pour mieux estimer les bénéfices réels, on compare l'évolution de la déforestation dans la zone concernée avec une zone contrôle identique avant et après la mise en œuvre du projet RED+, comme dans une vraie expérience scientifique finalement. Cela permettrait de renforcer la crédibilité et la rigueur de ce système de crédit carbone forestier. Ces nouvelles régulations et réglementations seront d'ailleurs au cœur de la COP30 qui se déroulera à Belém au Brésil à partir du 10 novembre prochain.
Merci Alexandra pour votre chronique. Grande nouveauté cette année sur France Culture, le fil Culture G. Chaque jour, en 3 minutes 30, du lundi au dimanche, les meilleurs experts tirent leur fil d'Ariane pour mettre notre monde en perspective. Tout de suite, c'est le fil Science par Evelyne Heyer, professeure d'anthropologie génétique, en partenariat avec le Muséum National d'Histoire Naturelle. Et chaque mercredi, on retrouve sa chronique, l'Odyssée des Humains.
Le fil Science.
Combien d'espèces humaines font partie de vous ? Savez-vous que, pendant quelques centaines de milliers d'années, nous n'étions pas la seule espèce humaine sur la planète ? Eh oui, nous n'étions pas la seule branche de l'humanité. Rappelons que chaque espèce a un ADN légèrement différent. Il y a 50 000 ans, vivaient aussi sur la planète les femmes et hommes de Néandertal, ceux de Luzon, de l'île de Flores et les humains de Denisova. Les plus connus et étudiés sont les Néandertaliens. Ils vivaient en Eurasie il y a plusieurs centaines de milliers d'années et ils ont disparu il y a seulement 30 à 40 000 ans. Notre espèce, à nous, Homo sapiens, émerge en Afrique il y a 300 000 ans. Et il y a 70 000 ans, notre espèce sort d'Afrique. Elle va se répandre dans le monde entier. Donc, il y a rencontre avec les Néandertaliens. Pendant plusieurs milliers d'années, nous sommes voisins. C'est là que la génétique a apporté une découverte majeure. Une équipe allemande est arrivée à lire l'ADN des Néandertaliens maintenant disparus en analysant des petits bouts d'eau de ces restes fossiles. Et là, incroyable, tous les humains portent en eux un petit peu de cet ADN néandertalien. Autrement dit, il y a bien eu mélange charnel entre nos ancêtres Homo sapiens et les Néandertaliens. L'histoire ne dit pas si c'était des dîners à la chandelle, je veux dire à la torche, ou si c'était des rencontres violentes. Mais le résultat est là, vous avez tous en vous un peu de Néandertalien. Quant aux Denisoviens, l'histoire de leur découverte est encore plus bluffante. Cette nouvelle espèce a été trouvée grâce à de l'ADN extrait d'un bout fossile d'os de petit doigt provenant de la grotte dite de Denisova en Sibérie. C'est le cousin à l'est de l'Himalaya de Néandertal. En analysant le génome des populations humaines actuelles à l'est de l'Himalaya, on trouve des petits bouts d'ADN issus de Denisova. Là encore, cela prouve qu'il y a eu mélange charnel entre nos ancêtres et ces Denisoviens qui ont maintenant disparu. A contrario, pour l'instant, il n'y a pas de mélange détecté avec l'homme de Flores trouvé en Indonésie, ce « hobbit de la préhistoire », ainsi nommé car il ne mesurait qu'1m10. Pareil pour l'homme de Luzon qui vivait aux Philippines. Dans les deux cas, il n'a pas été possible jusqu'ici d'extraire leur ADN. On n'a donc pas pu tester si eux aussi s'étaient mélangés avec les Homo sapiens. Est-ce même possible ? Ils appartenaient peut-être à des lignées trop différentes génétiquement de la nôtre pour que les mélanges puissent être productifs. Ou alors, peut-être que notre espèce ne les a juste jamais côtoyés. Bref, la recherche est donc encore bien active sur ces sujets. Et on ne sait pas encore avec combien de lignées humaines nous avons coexisté et avec lesquelles nous nous sommes croisés. Mais nous savons que cela fait peu de temps, à l'échelle de la préhistoire, que nous sommes la seule espèce de la lignée humaine sur la planète.
Merci Evelyne Ayer pour ce fil science et merci à vous pour votre écoute. Et merci à toute l'équipe de la Science CQFD. Ève Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Loïc Dutoit, Alexandre Morales, Joseph Schlegel. À la réalisation, Hélène Trigueros, à la technique aujourd'hui, Jordan Fuentes. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.